Vincent Diré des Nouvelles,
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. C'est sur les traces d'un étrange personnage que nous vous emmenons aujourd'hui par la magie noire de la littérature. Un roman singulier qui nous entraîne en équilibre instable sur l'étroit fil vaporeux qui sépare la vie et la mort. Bienvenue dans un monde peuplé de spectres diaphanes, de cauchemars et de visions énigmatiques, un monde où l'on parle d'enlèvement extraterrestre aussi. Bref, si les forces occultes nous en laissent le loisir, c'est d'un livre plein d'esprit, au singulier comme au pluriel, dont nous allons nous nourrir aujourd'hui. Un de ces livres que l'on dévore avec un appétit d'ogre, mais aussi avec une délicatesse de gourmet. Substance, de Claro, est paru chez Actes Sud, et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Claro.
Bonjour.
Votre héros, qui est aussi le narrateur, sauf dans le tout dernier chapitre du roman, s'appelle Benoît. Jusque-là, rien de très original, sauf que c'est Benoît sans accent circonflexe, sur le « i », sa tante l'a donc surnommé « sans flex », et la tante, c'est elle qui a accueilli Benoît dans sa maison, dans l'est de la France, on est dans le département de l'Aube, en Champagne. Car Benoît, sans accent circonflexe, est aussi Benoît sans parents. Benoît est orphelin, et Benoît n'est pas n'importe quel orphelin, c'est un orphelin de catégorie 3, pour reprendre la classification de la tante. C'est quoi un orphelin de catégorie 3 ?
Alors, c'est ce qu'elle va lui expliquer à ce pauvre gamin, mais c'est pour lui faire du bien. Elle lui explique que donc voilà, il y a les orphelins qui n'ont plus de parents parce que leurs parents sont morts, donc c'est horrible, ils vont être tristes toute leur vie. Puis il y a ceux qui ont été abandonnés par les parents, donc c'est également horrible, ils auront envie de les revoir ou pas de les revoir. Et donc comme elle n'a pas envie de lui parler de ces deux solutions, elle lui parle d'une, elle imagine une troisième qui est, il n'a pas de parents, il n'en a pas du tout, il serait donc né sous I generis, etc. Et donc comme ça il n'a pas de remords, de regrets, de peine à avoir, ce qui fait que lui est évidemment obligé de se reconstruire des origines un peu complexes.
Donc c'est un orphelin potentiellement heureux.
Potentiellement heureux, mais évidemment quand on n'a pas du tout d'origine, on est obligé de combler ça de façon un peu extravagante.
Oui, donc, alors justement, il se compare à des navets, à des poireaux, à des tubéreux, hein, à la discrète tribu des tubéreux.
Voilà,
c'est à ça qu'il semble appartenir.
En fait,
se sent appartenir au début.
Il se dit qu'il a peut-être été un légume, voilà, quelque chose qui pousserait comme ça tout seul sous terre, mais du coup ça l'apparente forcément plus, on va dire, un mort s'il vient de sous la terre. Donc en fait c'est quelqu'un qui prend tout à revers, tout à rebours, donc c'est comme s'il était d'abord mort et donc il n'est pas sûr d'être vivant, donc il se pose plein de questions.
Alors il se pose effectivement plein de questions, d'autant qu'il y a des cauchemars qui l'assaillent régulièrement la nuit et qui l'empêchent peut-être d'être le plus heureux possible comme le souhaiterait sa tante. Et dans ce cauchemar, il y a un motif récurrent qui revient régulièrement, c'est le dortoir aux entrailles. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cet endroit, si tant est que c'est bien un endroit, Claro? Le dortoir aux entrailles, ça fait peur déjà, rien que dans les mots.
Voilà, donc c'est un enfant qui sait pas trop s'il est vivant ou mort, et donc il a l'impression un petit peu d'être né deux fois en fait. Donc il serait né une première fois sous forme peut-être de légumes, donc ça il comprendra très vite que c'est pas possible. Mais après il a eu une seconde naissance quand sa tante l'a sauvé, et donc la question de savoir c'est est-ce que c'était un orphelinat tout simplement et puis il imagine des choses, ou est-ce qu'il est sauvé d'un traumatisme plus profond. En tout cas voilà, lui son passé n'existe que sous forme de cauchemar.
Mais alors quand on lit le livre, on s'intéresse évidemment aux mots, a fortiori quand on lit un livre de Claro. Alors j'ai vérifié, il y a deux acceptions au mot entrailles. Dans le mot entrailles on peut voir la notion de maternité, donc d'ascendance, d'origine, on vient d'en parler, et puis on peut aussi voir une dimension liée à la digestion et donc à la nourriture. Et là aussi c'est une question très importante dans le livre, parce que la tante elle se pique de cuisine et elle prépare des plats assez originaux, certains diront extravagants, pour son neveu, entre guillemets. Ce qu'elle prépare d'ailleurs ne manque pas de piquant, hein. C'est des plats roboratifs, des plats, elle dit qu'elle ne cuisine pas. C'est ce que vous écrivez, hein. Elle ne cuisine pas pour les épigastres réfractaires.
Oui, c'est un peu une tante à la manière de la grand-mère proustienne, voilà, de ces personnages un peu extravagants. Et c'est vrai que bon, le livre s'appelle Substance. Donc lui, à la recherche d'une substance qui serait peut-être voilà son être ou ses origines. Elle a une conception beaucoup plus pragmatique. Pour elle, la substance, c'est l'amour, et l'amour, c'est la nutrition, c'est nourrir. Alors effectivement, elle est en train de. En fait, elle, c'est un peu la figure de l'alchimiste. Hein, donc elle prépare des repas qui sont complètement incongrus, etc. Elle est dans On a parlé de magie noire, voilà, elle est dans une forme de magie ancienne encore, où on bidouille avec des cornues et des choses qui sont probablement immangeables.
Est-ce que la magie ancienne, on bidouille avec des choses, alors pas forcément toujours immangeables, Claro, mais est-ce que c'est un petit peu aussi le travail de l'écrivain? Parce que vous aussi, vous êtes un cuisinier de la langue, un cuisinier des mots, un cuisinier et un boucher aussi peut-être d'ailleurs.
Un bourreau aussi. Mais non, mais c'est vrai que moi, dans tous mes livres, je recherche souvent des figures de l'écrivain, de la personne qui est comme ça en position d'écriture. Alors il y a eu dans un précédent livre, c'était le magicien avec la figure d'Houdini, hein, qui me semble, on est un peu dans le même domaine. Ça peut être aussi le fait d'être assis sur une chaise électrique, hein, il se passe quelque chose, il y a du courant. J'avais fait un livre également qui parlait de ce qui se passe quand on prend du LSD, etc. Donc chaque fois, en fait, je décline ce qui me semble s'approcher de alors c'est pas du tout de l'inspiration, mais comment des flux entrent, des flux sortent, comment on travaille tout ça, comment le langage s'en sort au final.
Donc on en revient toujours dans effectivement ce travail d'accommodation, ce travail
de transformation de matière et donc d'expérience aussi des formes. La cuisine, c'est on travaille une matière, mais pour lui donner des formes.
Oui, alors j'insiste un peu sur la viande parce que je trouve que c'est vraiment intéressant parce qu'elle cuisine beaucoup de viande quand même. Votre personnage
n'est pas végane du tout,
de l'attente, pas du tout. Et c'est vrai que votre écriture, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais je la trouve un peu viandesque, si vous me passez le néologisme, parce que c'est vraiment une écriture organique, c'est vraiment une écriture de chair, très carnée. Il se trouve que votre blog littéraire, qu'on peut très facilement trouver sur Internet, s'appelle Le Clavier Cannibale. Vous avez écrit un roman, c'est le précédent, je crois, qui s'appelait Hors du charnier natal. Et dans ce livre, la chair est omniprésente, quoi. Ça fait quand même beaucoup d'indices, ça, Claro.
Bah, c'est la question de la substance, c'est que une personne qui écrit, je pense, elle écrit en tant qu'être physique, qu'être total. C'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait peut-être penser, c'est pas uniquement une aventure mentale, une expérience intellectuelle. Je pense que c'est, même si effectivement les écrivains sont des gens qui sont en position assise de 10 heures par jour, c'est quand même quelque chose de très physique, parce que comme on n'utilise pas le langage, on va dire ordinaire, courant, et ben c'est comme si en fait passer dans la machine du corps pour être un peu vécu différemment, pour essayer de vivre un peu plus les mots en profondeur, en résonance.
Mais la langue, c'est aussi une viande d'ailleurs, hein, qu'elle soit la langue de bœuf, de veau, de porc, d'agneau, que sais-je. Est-ce qu'un texte se travaille comme une viande? Est-ce qu'il faut le découper, le dégraisser, l'accommoder avec des aromates, des épices, des sauces comme ça, d'un paragraphe à l'autre?
Oui, ben, c'est une comparaison qui tient bien, parce que souvent en cuisine, on a tendance, des fois, on veut en rajouter, alors on va mettre 5-6 épices. Après, au bout d'un moment, on finit par comprendre que trop d'épices tue l'épice, etc. Et en écriture, ouais, voilà, parfois, on se laisse aller dans le style, et je suis le premier à m'en rendre compte, des fois, à en faire trop, et on peut rendre des textes un peu, effectivement, indigestes. Donc, en fait, c'est une question d'équilibre. Il y a des fois, il faut donner des choses bien grasses, etc. Une phrase, un paragraphe qui a du nerf, comme ça, de la verdure, comme on dit, et puis parfois, il faut donner un peu des choses plus sèches, etc. Mais c'est vrai que du moment qu'on a affaire à la viande, ça, la comparaison est pertinente.
Oui, mais c'est vrai que dans ce livre, Claro, les chapitres sont relativement courts, pour la plupart. Il y a un chapitre qui est très court, mais qui est composé quasiment d'une phrase. Hein. C'est vraiment ça, la phrase dure un peu plus de 2 pages et demie, je crois. Voilà, et c'est vrai qu'ils sont parsemés, ces chapitres, de phrases choc. Et puis, il y a les mots. Là, je voudrais qu'on s'arrête un petit instant sur les mots, parce que ce sont des mots, pas forcément des mots rares, mais des mots, on va dire, assez inhabituels. Des mots un peu avec les habits du dimanche, si vous voyez ce que je veux dire, comme dirait mon ancien professeur de français. Comment est-ce que vous les travaillez? Comment est-ce que vous les habillez, vos mots? Comment est-ce que vous les choisissez dans votre penderie?
Je pense que pour un écrivain, il y a une grande quantité de son lexique vient en fait de ses lectures. Des tas de mots, des tas de registres lexicaux proviennent de romans qu'il a lus, ou pas forcément de textes de fiction, mais voilà, ils ont déjà on va dire une saveur, un arrière-goût qui vient voilà, moi je peux dire par exemple, je sais que le mot soupirail pour moi est un mot qui vient de Rimbaud, parce que je l'ai lu dans un texte de Rimbaud, et donc il reste marqué par ça. Et donc, je pense que c'est le cas pour des tas de mots, et quand on crée après des situations, des contextes différents, ça fait appel à des registres qui viennent, qui ont traversé, je pense, des livres.
Donc, et donc qui parlent à l'inconscient du lecteur aussi.
Et qui peuvent parler aussi à l'inconscient du lecteur, qui font que enfin, je veux dire, plus le registre est lexical et étendu, même s'il y a des mots forcément qui sont un peu anciens ou datés, ça permet au texte d'avoir des zones d'ombre. Hein. Et je crois qu'il n'y a rien de pire qu'un texte qui serait d'une clarté absolue où on comprendrait tout, etc. Parce que le phénomène même de la lecture, quand on apprend à lire les premiers livres qu'on lit, on ne comprend pas tout. Mais c'est ça qui nous marque. Et après, on découvre qu'on ne comprendra jamais tout.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
VMDN avec Claro qui publie Substance chez Actes Sud, un livre que trois d'entre vous pourront gagner tout à l'heure en répondant à la question du jour sur notre page Facebook. Alors quand vous évoquez le personnage de la tante, Claro, puisqu'on évoquait les mots à l'instant, vous lui adjoignez régulièrement quelques épithètes bien choisies. Il n'y a jamais deux fois les mêmes, hein, sauf erreur de ma part dans le roman. Il y a toute une collection comme ça. Alors on peut citer par exemple, c'est vraiment quelques exemples, la tante aux cosmologies fantasques, la tante à l'hiver engagé, la tante aux ires mussoliniennes, la tante à l'œil de Moscou, la tante à la rigueur modulable. Écrire, c'est un jeu, et sauf Claro.
Voilà, c'est une façon de rappeler comment se définit quelqu'un. C'est-à-dire, quelqu'un, c'est à la fois une substance, hein, toujours ce fameux titre, un être, et puis après, il a des particularités, donc il a des attributs. La substance, c'est l'attribut. Donc la tante, elle ne peut se définir dans ce jeu du roman que par des attributs, des particularités liées à la cuisine, à sa façon de penser, à sa façon d'agir.
Mais liées aux circonstances, parce qu'à chaque fois, voilà. L'expression que vous choisissez de mettre en valeur colle exactement au regard que le personnage de Benoît porte sur la tante à l'instant T, au moment de l'action.
C'est parce que lui, il a aussi cette conception de l'être qui est très étrange, qu'il a l'impression qu'on n'existe pas vraiment, qu'on est poreux, qu'on est malléable, etc. Et donc, finalement, il n'y a que les attributs que ce qu'on est dans telle ou telle circonstance qui font qu'on tient encore un petit peu dans la vie. Et puis, tous ces attributs sont là pour cacher en fait le nom de la tante, parce que je ne dis jamais sa tante ou il ne dit pas ma tante, c'est toujours la tante.
Avec une capitale, hein, voilà. Un T majuscule.
Je pense qu'un lecteur, au bout d'un moment, il entend aussi l'attente, l'apostrophe, attente, et que c'est un enfant qui vit aussi avec l'attente.
Voilà, donc, et le lecteur attend donc d'en savoir plus. Alors l'attente, c'est une redoutable femme d'affaires, elle a trouvé un super filon pour se faire plein d'argent, je laisse le lecteur découvrir exactement lequel. Et puis, deuxième point important, elle dort dans une chambre qui est toujours fermée, à double tour, chambre dans laquelle on la voit tout le temps disparaître, mais dans laquelle son neveu n'a jamais mis les pieds. Alors ça, c'est génial pour un écrivain, parce qu'on se dit qu'une porte fermée, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière, c'est un piège pour l'imagination.
Ben en fait, ce que j'essayais de faire, c'est que bon, on prend Benoît quand il est assez petit. Donc, en fait, un enfant, comme il ne connaît rien et qui découvre tout, tout peut lui paraître bizarre. Donc, en fait, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est peut-être qu'elle fait des plats un petit peu compliqués et lui, il imagine des choses folles. Et elle a une chambre où il n'a pas le droit de rentrer pour X raisons, mais c'est pas forcément grave. Mais pour lui, du coup, ça prend une proportion assez incroyable. Ça devient ce qu'il appelle une antichambre. Et en fait, c'est vraiment une vision d'enfant qui déforme tout. C'est comme...
Mais ça fait référence à des contes aussi, hein. La chambre fermée, alors sans aller jusqu'à Barbe Bleue ou quelque chose de dramatique. Mais c'est aussi une figure du conte pour enfants.
Voilà. C'est lié aux peurs, hein. Les peurs de l'enfance, c'est l'architecture de la maison, c'est la porte, le seuil, voilà. Parce que le livre se passe quand même exclusivement ou presque à l'intérieur de cette maison qu'il appelle la maison debout.
Alors, dès le début du livre, on est en fait un peu comme Benoît, hein. On se demande ce qu'il y a derrière cette porte, à quoi ressemble ce royaume intime de la tante, en quelque sorte, mais c'était pas dans la chambre de la tante, mais dans une autre chambre que va se dérouler un événement qui va changer l'existence de Benoît, la chambre d'un mort, au cours d'une veillée mortuaire. Le mort s'appelle Monsieur Voinché, petit clin d'œil peut-être à un confrère journaliste de France Culture.
Non, ça n'a rien à voir.
Un voisin, voilà, d'ailleurs, très bien. Et donc ce mort, Monsieur Voinché, eh bien, la tante demande à Benoît de le veiller dans sa chambre. Nous sommes page 117 de votre roman.
Je vis un voile qui n'était ni peau ni toile se former lentement en tout point du gisant, tel du givre s'étendant à même le froid d'une vitre, mais filmé en accéléré, ou comme l'ombre d'un nuage sur la mer hâté par le vent. Et ce recouvrement qui tenait également du dévoilement était à la fois doux et déchirant. Lent et fulgurant, il semblait chanter le retour de la vie tout en murmurant son contraire. Et je me rappelais alors la première fois où j'avais vu du lait fuir dans une casserole, fasciné par la marée moussue circulaire obstinée. Mais l'attente au réflexe ninja avait d'un geste, d'un seul ôté le récipient de sa couronne de flammes bleues. Et j'avais vu alors la masse furieuse frustrée, la neige domptée. Les atomes rappelés à l'ordre. « Mais ne fais pas cette tête de couillon », me dit l'attente à la langue leste, en cherchant à agacer le stop-lay dans un tiroir où je n'aurais pas été surpris d'apercevoir le raton laveur du poème. Oui, je vis l'ombre lactée monter en crème au-dessus et vibrer. Sa trame moussée et ondulée, le bouillon de vie affleurait à la surface du nouveau mort, hésitait à déborder, puis se résorber lentement dans ses affleurements, lentement capituler, se détisser, s'éparpiller, tandis que l'immense force qui sous-tendait son éruption voyait son énergie contrariée par les exigences de la décomposition, se contracter, s'amenuiser. Puis le voile devint vapeur, la vapeur se dessécha, prit une teinte grise où subsistaient des reflets bleuâtres. Entre-temps, ainsi que je pus m'en apercevoir en m'approchant du phénomène, me penchant au-dessus comme si tout mon corps était un cou qui se tendait, l'éphémère suaire qui ne formait plus à présent qu'une vague ellipse distendue, flottant au gré des courants d'air, semblait avaler l'essence du défunt voinché. Du moins, est-ce l'impression que j'eus. Fondée non sur son apparence physique, désormais ratatinée aux dimensions d'une hostie immatérielle, sur le point d'être avalée par la bouche entrouverte du mort, comme en négation de toute respiration, mais sur des ondes qu'elle émettait et que je recevais avec une acuité incroyable. J'ignorais alors complètement ce qu'était ou pouvait être un ectoplasme. Je n'en avais jamais vu en vrai, pas plus qu'en photo. D'ailleurs, car il en existe, ce sont des choses qu'on peut fixer, apparemment. Le mot même ne m'évoquait rien, sinon quelque chose d'injurieux, de mou et d'agaçant, qu'on éloigne en criant dans les terres de peur que ça ne s'accroche, telle une chauve-souris ivre et gluante, à vos vêtements, vos cheveux, vos idées.
Et Benoît Claro va conserver ces étranges substances dans son mouchoir, hein, au fond de sa poche. Alors je vous renvoie à la question, Claro, puisque vous l'évoquez vous-même dans cet extrait à travers votre personnage, qui est aussi donc le narrateur. Avant d'écrire ce livre, qu'est-ce qu'il vous évoquait, ce mot ectoplasme ?
Ben, il ne m'évoquait pas grand-chose, justement, parce que autant il y a des choses liées au... au spiritisme qui nous parle. Bon, on voit en gros ce que c'est une séance de spiritisme, on a une vague idée de ce que c'est une table tournante, le Ouija, des choses comme ça, mais c'est vrai que l'ectoplasme est quelque chose de justement de vague, etc. Alors il existe des photos, voire des moulages, des choses comme ça, et moi je voulais justement essayer de me dire bon bah là voilà, on a une matière étrange qui est à la frontière entre la vie et la mort, entre la science et l'esbrouf, entre la peur et le ridicule, enfin c'était vraiment quelque chose de... Et donc j'imagine, bon alors c'est pas très effectivement orthodoxe puisqu'on n'est pas censé recueillir un bout d'ectoplasme d'un cadavre, mais bon, en tout cas lui c'est comme ça que ça se passe. Et puis c'est aussi le rapport de... forcément d'un adolescent avec une espèce de matière qui peut surgir d'un corps dans les moments cruciaux, donc ça va lui parler.
Alors on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur ce mot et sur la réalité des ectoplasmes, ou réalité supposée et autres phénomènes paranormaux, parce qu'on en croise quand même quelques-uns dans votre roman. On va évoquer aussi notre rapport à la mort, et pour ce faire nous accueillons Bertrand Méleux. Bonjour.
Bonjour,
merci de nous rejoindre. Vous êtes docteur en sociologie, vous êtes aussi membre du comité de direction de l'Institut Métapsychique International, qui est une fondation reconnue d'utilité publique en France et qui se consacre à l'étude scientifique des phénomènes paranormaux. Alors déjà, parlons justement de l'ectoplasme. Est-ce que vous en avez déjà croisé un, si j'ose dire ? Est-ce que vous en avez déjà touché, mis au fond de votre poche, comme le fait le personnage de Benoît dans le roman ?
La réponse va être ambiguë. J'ai touché un moulage d'ectoplasme, puisque nous avons l'Institut de Métapsychique, une série de moulages qui ont été effectués dans les années 20-22, dans des conditions qui sont longues à raconter, que je raconterai si vous m'y autorisez, me laissez le temps. Donc j'ai touché des moulages de mains d'ectoplasme, oui.
Alors à quoi ça ressemble, cette substance ? Alors dites-nous-en davantage, puisqu'il est question de substance depuis le début de cette émission.
Alors en fait,
on est dans cette trame lactée, ce voile qui tourne à la vapeur, cette couleur gris-bleu que nous décrit Claro dans l'extrait.
Je peux partir de... En fait, j'ai pointé en lisant le roman, j'ai pointé les ressemblances et les différences avec les ectoplasmes réels. Je mets des guillemets pour cas où des rationalistes ombrageux nous écouteraient. Donc,
hein. On ne sait jamais.
Oui, on ne sait jamais, c'est plus prudent. Donc, l'ectoplasme qui est décrit, là, bon, le texte qu'on vient de lire nous le dit, c'est une sorte de... Ça se condense, hein, ça exude d'un corps, dans l'occurrence d'un corps d'un mort. ça se condense, ça disparaît, mais enfin, il reste une infime petite partie de cette substance que l'enfant va prendre et qu'il va ingérer, si je me souviens bien. Et ça va provoquer chez lui... D'abord, quand il essaie de toucher à l'ectoplasme, ça provoque chez lui une violente commotion physique, comme un choc électrique. Et ensuite, ça va provoquer, quand il l'ingère, une commotion psychique qui s'apparente à une sorte de transe, dans laquelle il va récupérer les souvenirs des vies du mort qu'il veillait, puisque c'est pendant un mort que ça s'est produit. Et puis ensuite, ça va s'étendre, une sorte d'anamnèse infinie. Bon. Alors, tout ça, évidemment, ce sont des notions qui... Ben, c'est le romancier à la liberté de faire ce qu'il veut, bien entendu. Et moi, je suis là pour dire voilà ce qui s'est passé en réalité.
Mais alors, attendez, parce que je voudrais justement que les choses soient assez claires. Pour vous, un ectoplasme, c'est quoi? Est-ce qu'on peut donner une définition de cette substance mystérieuse?
Pas plus que le romancier. Nous pouvons décrire ce qui... Personne ne sait ce que c'est. Nous pouvons décrire ce qui s'est passé avec beaucoup de précision, cerner la réalité d'une façon indirecte, mais on peut faire des hypothèses, bien entendu, mais on n'a pas de théorie de l'ectoplasme, si c'est ça que vous voulez me faire dire.
Pourquoi est-ce que vous avez voulu, si j'ose dire, creuser cette question de l'ectoplasme, Claro? Parce que vous n'êtes pas levé un matin en disant « je vais écrire un roman autour de l'ectoplasme, c'est impossible ».
C'est un peu ça. Je fonctionne un peu comme ça. Non, c'est vrai que le mot me parlait, mais ce que je disais, c'était par rapport à l'être, puisqu'il y a toute une question dans le livre sur qu'est-ce qu'on est, est-ce qu'on est réduit à un être vraiment, ou est-ce qu'on n'existe que par ses attributs, que par ce qu'on fait, et au bout d'un moment, la question de savoir à quoi on peut se réduire vraiment. Et donc l'ectoplasme avait l'air d'être une espèce de réponse, qui disait voilà, une fois que les gens vont dans l'au-delà, derrière le rideau noir, ils peuvent encore donner un bout d'eux-mêmes, et ça serait ça. Et donc ça paraissait assez inquiétant d'imaginer que la seule chose qu'un mort puisse transmettre... En plus de paroles, parce que ça leur arrive quand même de parler, ça soit une espèce de bout de chiffon gluant, quoi. C'est plutôt, mais ça veut dire que c'est une représentation quelque part de l'être comme quelque chose de d'informe, d'amorphe.
Mais est-ce que l'ectoplasme, Bertrand Méheu, peut, selon vous, selon les études que vous avez faites, est-ce que ça peut être une sorte de pont, de porte d'entrée vers la mort pour les vivants et vers la vie pour les morts?
Ça peut être tout ça, mais je voudrais commencer par une description précise de ce que c'est, comment ça se montre, comment ça s'est montré, puisque c'était sporadique dans l'histoire de la métapsychique. Il y a eu une époque pour ça. Donc l'ectoplasme, je termine la comparaison que j'avais commencée, en réalité, il ne sort pas d'un... En réalité, toujours avec des guillemets, il ne sort pas d'un mort, mais il sort d'un médium qui est vivant et en général... jeune, enfin quelqu'un de moins de 40 ans.
Ah, donc ça correspond à peu près au personnage de Benoît, alors.
Oui, ou d'une personne, c'est rare avec des enfants. Hein. Il sort d'un médium pendant une séance. Le médium en question n'est pas nécessairement spirit. Il a comme particularité d'une capacité d'entrer dans une transe très profonde. On verra que c'est le cas de Kluski, celui qui a produit les ectoplasmes les plus extraordinaires. Sa transe était tellement profonde qu'il fallait le secouer à la fin, on pouvait plus le réveiller. Donc, ça sort d'un corps vivant, non pas d'un mort, ça sort de la bouche et des aisselles. Effectivement, ça a un côté évanescent, ça se rétracte, c'est comme des espèces de une sorte de protoplasme qui étend des tentacules et qui esquisse des formes d'êtres humains ou parfois d'animaux d'ailleurs. Il y a aussi des productions d'animaux. Lorsqu'on essaie de le toucher, il se rétracte à la vitesse la corne d'un escargot en un éclair. On ne peut pas récupérer de substance, à la différence du roman. C'est totalement réglé par la loi fondamentale des phénomènes paranormaux qui est l'élusivité.
Mais alors, dites-moi, pardonnez-moi de vous couper, mais quel est le lien alors entre l'ectoplasme et la mort ?
Je vous répète, les ectoplasmes sont produits par des vivants.
Donc il n'y a pas de lien entre l'ectoplasme et la mort.
Je ne sais pas.
Vous ne savez pas.
Vous posez des questions auxquelles je ne peux pas répondre. Je vais finir.
Vous êtes beaucoup trop rationnel.
Je veux terminer ma comparaison. Pour finir, donc si vous voulez dans le roman, l'enfant. Après avoir ingéré l'ectoplasme, a une sorte de commotion psychique qui s'apparente à une transe, et c'est là qu'il devient médium. Dans la réalité, c'est le contraire, c'est le médium qui produit l'ectoplasme. voyez.
Oui, alors c'est vrai
pendant sa transe. On ne sait pas pourquoi, bien entendu, la transe favorise la production d'un ectoplasme, mais le lien est constant. C'est comme ça que la science fonctionne. On commence par repérer des liens extrêmement constants. Voilà, donc ça, voilà ce qui se passe en réalité, si vous voulez.
Donc votre ectoplasme, il est riche en éléments médiumniques, Claro. Donc il ça veut dire qu'il a des propriétés particulières.
Oui, comme toute substance, elle peut s'ingérer et donc provoquer des états. C'est un peu comme un champignon hallucinogène.
Voilà.
Enfin, dans le livre.
Oui. Mais alors, vous êtes renseigné justement sur les ectoplasmes. Vous avez
j'aime bien me renseigner.
La fiction, les études scientifiques ou pseudo-scientifiques.
J'ai lu pas mal d'ouvrages. Sur le spiritisme, comment il est apparu, parce que c'est assez intéressant de voir que c'est un peu comme le cinéma. C'est quelque chose qui est assez récent finalement, qu'on peut presque dater des Sœurs Fox à une époque, même si bien sûr il y a un côté parapsychique qui remonte à l'Égypte et même avant, mais bon, en gros ce côté spiritisme peut se dater, apparaît et s'étiole relativement. C'est aussi comme le cinéma d'ailleurs, c'est marrant, il y a peut-être un livre à faire là-dessus, voilà.
VMDN sur RFI avec Claro qui publie Substance chez Actes Sud et Bertrand Méheux qui nous éclaire sur les différents phénomènes que l'on peut retrouver à l'intérieur de ce roman. Vous avez reconnu la musique là, Claro ?
Non, je me demandais justement ce que c'était.
Ah ben, c'est la musique d'une émission de télévision qui se déroulait dans les années 50 aux États-Unis à Oregon TV, sur KPTV Oregon, qui s'appelait The Horror Show. Ça
D'accord.
vous dit quelque chose, non ?
Ouais. Je ne l'avais pas retrouvé.
Voilà, c'est la musique, donc de cette émission de télévision que la tante et trois de ses amis ES aiment regarder. Comment cette émission de télévision est venue sous votre plume ?
Je crois que je suis tombé sur un petit film qui parlait de cette actrice qui passe Tarantula, parce qu'évidemment quand on se préoccupe de ces choses-là, il y a aussi tout le folklore qui est derrière, mais qui est forcément beaucoup plus marquant pour l'enfant. Moi, ça m'a rappelé quand même le fait que certains films ou extraits de films qu'on peut voir quand on est tout petit peuvent vous marquer à vie quelque part, etc. Et j'aimais bien cette idée que là, au contraire, ce sont ces trois vieilles dames et la tante qui regardent une émission d'horreur qui est très datée et qui en plus ne passe absolument pas à la télé française et surtout plus de nos jours, mais que mystérieusement leur télévision capte encore.
Alors à quoi est-ce qu'elle ressemble justement cette comédienne qui s'appelle Susan Waldron et qui joue le personnage de Tarantula Ghoul?
Ce qui est intéressant surtout, c'est que c'est ce que je raconte dans le livre, c'est que elle avait beaucoup de succès. C'était des petits extraits, enfin des petites mises en scène comme ça dans un cimetière, un peu pour faire peur, qui précédaient en général la diffusion d'un classique de l'horreur. Donc elle ressemble, faut un peu imaginer la famille Addams avec une.
Ah oui, moi j'ai pensé à Morticia tout de suite. Il y a quelque chose, on est d'accord.
Je pense que c'est un peu une ancêtre. Ils sont inspirés de ça et voilà. Sauf qu'après, elle a été interdite de d'émission parce qu'on a appris qu'elle était enceinte alors qu'elle n'était pas mariée. Et ce qui est aussi quelque chose dans le livre qui permet de faire une passation vers un autre problème, qui est le vrai problème de, parce que il y a beaucoup de femmes, en fait, dans le livre. Il y a Benoît, mais sinon, il y a trois femmes, sa tante et aussi Marguerite.
Oui, Marguerite qui arrive à la fin du roman.
Et à un moment, la véritable horreur, c'est pas forcément des choses supranaturelles, mais c'est peut-être des vraies histoires de femmes.
On est d'accord. Alors, Tarantula Ghoul, donc ce personnage, Ghoul, c'est quoi une ghoul?
C'est un être fantastique. Il y en a beaucoup dans les romans de Lovecraft, je crois.
On n'est pas très loin du vampire, hein.
Je ne sais pas si c'est un être réel ou si c'est un être fantastique. Lovecraft en fait un être fantastique. Franchement, je n'en sais rien.
Et Tarantula Ghoul, le lecteur va la croiser lors d'une scène très réussie dans le roman, une séance de spiritisme. Nous sommes page 201.
Maigre, quoique embobiné dans une chitine de voile blanc, maquillant des gars des os, le regard en retrait, la spirite avança et recula son visage ingrat et tourmenté. Mais si lentement que j'eus l'impression que c'était mes yeux qui s'efforçaient mécaniquement de faire le point. Autour de moi, ça chuchotait à tout va. « Suzanne est là !» dit l'une. « Entre ici, Waldron !» dit l'autre. « Bienvenue au Tarantula, osa-t-on sur ma droite, suivi d'un ghoul, approche. Il est temps que tu... » C'était terrifiant et ridicule. Où l'avait-elle déniché et par quelle aberration se faisait-il que... Puis ce fut comme une intuition qui me crispa, l'impression de l'avoir déjà vue, de la connaître.
Alors c'est toujours raconté avec la verve et l'ironie qui vous caractérisent. Claro, vous voulez nous faire peur ou vous voulez nous faire rire ?
Je pense que Zalimi, c'est presque plus facile de faire peur que de faire rire. Non, ce qui est intéressant, c'est que ça soit toujours en train de d'osciller entre les deux et que voilà, on a quand même c'est la vision d'un enfant, donc il faut jamais l'oublier. Alors, ce qui est troublant, c'est que cet enfant grandit quand même dans le livre.
Mais lui-même ne sait pas s'il est enfant ou adulte.
Voilà. Hein, donc le lecteur, au bout d'un moment, ne sait pas non plus est-ce qu'il a encore 12 ans, est-ce qu'il en a 5, voilà. Est-ce qu'il est devenu bon. Il y a des indices. À un moment, on comprend qu'il devient un petit peu adolescent. Mais donc voilà, c'est une vision où tout est déformé et tout peut paraître horrible et ridicule. Je pense que c'est la façon primordiale dont l'enfant expérimente la vie, c'est entre la peur et le ridicule.
Donc entre la peur et le ridicule, entre l'âge adulte et l'enfance, entre la vie et la mort, Bertrand Méheux, le spiritisme, c'est aussi finalement sur une forme de corde raide, hein, que l'on peut se déplacer effectivement à travers ça. J'imagine que c'est passionnant à utiliser. C'est un terrain d'étude assez incroyable pour le métapsychologue que vous êtes.
En fait, le spiritisme n'est pas notre champ de recherche principal, mais les spirites ont fourni des matériaux considérables. Voilà, si vous voulez, les métapsychistes ont exploré le spiritisme comme une sorte de gisement. Mais il y a eu aussi des médiums beaucoup plus performants que les médiums spirites, qui ont produit des phénomènes extraordinaires, les plus extraordinaires, comme justement Kluski, celui qui a produit les meilleurs ectoplasmes.
Alors, vous avez vous-même assisté à des séances de spiritisme, votre ami ?
Oui, mais pas dans le cadre d'une étude, disons, avec une mise en place de dispositifs, etc.
Juste pour voir. C'était pas, voilà, vous n'étiez pas autour d'une table avec des objets curieux, des esprits frappeurs,
non,
etc.
Non,
là,
non,
là,
non.
Là, on est dans le fantasme ou on est dans la réalité historique? Parce que quand même, il y a quand même énormément d'écrivains, notamment, et pas des esprits faibles, hein, Victor Hugo, Dumas, Georges Sand, Théophile Gauthier, qui ont participé
à des séances.
Conan Doyle, il a même ouvert une librairie spirit à Londres.
Il y a eu un incroyable engouement pour ces choses-là, évidemment. Mais à l'époque où la métapsychique commence, le spiritisme est en train de se retirer. Il existe encore, hein, bien entendu. Et c'est l'immense deuil collectif qui a été créé par la guerre de 14 qui a permis de créer l'Institut métapsychique. En fait, les choses remontent de plus loin. L'étude de ces choses-là, ça remonte au mesmérisme.
Hein. Alors, le mesmérisme, alors dites-nous ce que c'est.
C'est un courant de recherche et de pratique qui a été déclenché par un thaumaturge autrichien qui était venu en France juste avant la Révolution pour y promouvoir une nouvelle médecine holistique et qui a déclenché un immense bazar, on peut dire. Parce que il produisait des guérisons inexplicables. Et parmi ses disciples, il y a eu des aristocrates qui ont poursuivi le travail, notamment le marquis de Puységur, qui a découvert le somnambulisme artificiel. Et c'est de là que tout est parti, en réalité. Et donc, ce champ, il commence à cette époque-là. Le spiritisme, il arrive vers 1850, au milieu des années 50 en France, au début même, puisque Victor Hugo, il fait tourner les tables en 52.
Voilà, vous avez fait tourner les tables, vous aussi, Claro, ne serait-ce que pour pouvoir écrire le roman, pour vous mettre dans la peau différents personnages.
J'ai déjà beaucoup du mal à les monter quand on les achète chez Ikea, donc les faire tourner, j'en suis pas encore là. Donc.
D'accord, pas encore là, mais parce que c'est très réaliste, hein, si je veux dire, la scène de spiritisme. De quoi vous êtes-vous inspiré pour écrire ce chapitre. Enfin, il y a deux chapitres. Hein,
mais... Non, mais j'ai lu...
dont celui qui est quasiment constitué d'une seule phrase qu'on évoquait tout à l'heure.
On dispose de plein de récits, donc c'est amusant de croiser des témoignages qui peuvent dater effectivement du 19e comme du 20e.
On est vraiment... avant la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, hein, pour comme le disait Bertrand Weber.
Oui, non, mais c'est lié aux guerres. Hein. Le spiritisme, il naît aux États-Unis une première fois à la suite de la guerre de sécession, parce qu'il y a énormément de gens qui ont perdu des êtres chers et qui ont ce désir de les revoir. Donc c'est après on pense ce qu'on veut des médiums, etc. Mais c'est vrai que c'est chaque fois lié à un besoin de renouer avec quelqu'un qui est mort, etc. Donc ça dit quand même des choses.
Alors justement, c'est la question que j'allais vous poser, Bertrand, mais l'idée même de communiquer avec l'au-delà, d'entrer en contact direct avec les morts, de dialoguer même parfois avec les morts, qu'est-ce que ça dit de la société? C'est une façon de prouver qu'on peut être plus fort que la mort?
Alors, ça dit beaucoup de choses en même temps, en fait. C'est très compliqué comme formation culturelle. Par exemple, on peut considérer que c'est une sorte de révolte contre le positivisme, qui ferme tous les débats métaphysiques, qui renvoie toutes ces choses-là dans l'ignorance, dans la superstition. Et en plein positivisme, il y a un courant extrêmement puissant porté par le plus grand écrivain français, Hugo, etc., qui au contraire affirme que la mort n'est pas le dernier terme et qu'il reste peut-être quelque chose de la conscience humaine après la mort. Et on essaie d'explorer ça avec les moyens donc de la science.
Alors, superstition, science occulte, doctrine philosophique, dans quelle catégorie vous rangeriez le spiritisme, Bertrand?
C'est tout ça à la fois. C'est tout ça à la fois. Mais il a eu, si vous voulez, j'insiste beaucoup, excusez-moi, mais j'insiste beaucoup sur la différence qu'il faut faire entre le spiritisme et la métapsychique.
Alors, expliquez-nous.
Mais c'est fondamental, c'est-à-dire que le spiritisme est une production culturelle spontanée qui a eu une immense influence sur la société, qui charrie des croyances plus ou moins acceptables, c'est pas la question. Et la métapsychique, c'est un effort pour comprendre ce qui se cache derrière ces phénomènes, à travers les moyens de la science.
Donc c'est vraiment une discipline scientifique,
tout
la métapsychique.
Bien entendu, voilà. Bien entendu. Donc ça a été créé par un prix Nobel, Charles Richer, c'est d'ailleurs lui qui a inventé le terme d'ectoplasme. En fait, on vient de fêter au mois de juillet le premier centenaire de l'Institut métapsychique. Donc il a été fondé en 1919.
Alors, quel est l'objectif, justement, de cet institut métapsychique?
C'est d'essayer
de comprendre, par des moyens scientifiques, l'étrange, l'inexplicable, d'expliquer l'inexplicable.
L'inexplicable, c'est un concept trop flou. Nous avons cerné des concepts à l'intérieur de cet inexplicable. On peut les diviser en deux parties, si vous voulez. Vous avez ce qu'on appelle le psy, c'est le terme qu'on emploie pour désigner ces phénomènes. En fait, ce terme a été proposé par un philosophe américain, tout simplement parce qu'il a pris au hasard une lettre de l'alphabet grec, pour se détacher des connotations que portent avec elle toutes les notions anciennes comme l'âme, etc. Bon. Donc le psy, il y a le psy intellectuel, c'est-à-dire la télépathie, la précognition et la clairvoyance. Si on peut entrer dans les détails pour distinguer tout ça, et le psy physique qui est typiquement produit par les producteurs d'ectoplasme. Bien.
Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart? Do the chairs and your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight?
I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said the world's a stage and each must play a part. Fate had me playing in love with you as my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue. Then came act two. You seemed to change, you acted strange. And why, I've never known. Honey, you lied when you said you loved me, and I had no cause to doubt you. But I'd rather go on hearing your lies than to go on living without you. Now the stage is bare, and I'm standing there with emptiness all around. And if you won't come back to me, then they can bring the curtain down. Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight?
Elvis Presley sur RFI. Alors lui aussi, on le croise dans votre livre, Clara. Vous pouvez nous expliquer pourquoi?
C'est parce que Benoît, à un moment, est dans un supermarché et il se trouve que les enceintes du supermarché diffusent du Elvis Presley. Et évidemment, comme il va ramasser un petit bout apparemment d'ectoplasme, il pense qu'il a trouvé un bout d'ectoplasme d'Elvis Presley, selon une logique peut-être d'enfant, de fou ou en tout cas de curieux.
Et pourquoi cette chanson-ci ? Are you lonesome tonight ? Es-tu seul ce soir ?
Alors, ça serait un peu compliqué parce que Elvis Presley devait avoir un rôle plus important dans le livre.
Ah bon ?
Et finalement, il a été réduit à une espèce de voilà de petite crotte de nez ectoplasmique et bien fait pour lui. Mais après, bon, effectivement, les.
Mais quand on évoque La mort, le paranormal, Elvis Presley arrive hein, quand on est aux États-Unis très très vite.
Tout le monde sait qu'il n'est pas mort. En voilà. Plus, le texte de la chanson est vraiment sur la solitude, sur quelque chose. En plus, il y a aussi le fait que cette chanson existe dans une autre version où Elvis Presley a un fou rire incroyable. Donc, voilà, c'était une chanson qui avait du sens à ce moment-là.
Voilà, qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs, Bertrand Béhaut ? Je ne sais pas si vous avez étudié la question, mais la façon, enfin le regard que portent les Américains sur la vie et sur la mort, surtout d'Elvis Presley, toutes les interrogations, tous les fantasmes, diront certains, autour de ce personnage.
Ouais, pour être franc, je m'en fiche complètement.
D'accord, très bien. Alors, on va enchaîner, hein, voilà, puisque le temps de toute façon nous est compté. Elvis était une sorte d'extraterrestre, vous voyez la liaison, je vais travailler. Qui croyait d'ailleurs dans la vie extraterrestre, Elvis Presley. Et des aliens, il y en a aussi dans le livre de Claro. Alors, on va pas révéler exactement dans quelles circonstances ils vont débarquer, si j'ose dire. Mais il se trouve que vous vous intéressez aux ovnis, notamment, depuis de très nombreuses années. Vous avez même écrit dans les années 70, Bertrand Méheux, un livre très important en la matière. Est-ce que l'hypothèse, je dis bien l'hypothèse extraterrestre pour expliquer ces objets volants non identifiés, est une hypothèse qui continue d'être suivie et qui mérite de l'être?
Avant de répondre à cette question, j'aurais signalé que j'ai donc commis le premier livre sur les enlèvements, puisqu'il est question d'enlèvement dans les abductises. Mais
L'abduction, c'est le phénomène dont parle Claro.
Les Américains, ils abductisent. Et donc c'est un. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de lire cette partie du roman, donc je peux pas en parler. Je suis arrivé, j'ai vu qu'il en était question. Et je m'interroge sur le. Et en tout cas, ce que je pense de l'hypothèse extraterrestre. Pourquoi pas ? Étant donné que cette hypothèse, si on la pousse jusqu'à la limite, ça nous amène à des considérations qui sont... On peut rien savoir de ce que deviendrait une espèce d'ayant développé la technologie depuis des millions d'années. Donc tout est possible, et donc on ne peut rien savoir.
Donc scientifiquement, on ne peut pas écarter cette possibilité.
Bien entendu, avec les exoplanètes, etc., qui se multiplient, ça va peut-être faire que la communauté scientifique va finir par se dire, finalement, et si on faisait un lien avec ces trucs qui se baladent à proximité du sol ou dans notre atmosphère ?
Alors, vous, je sais pas si vous y croyez, vous, Claro, parce que quand on parle d'OVNI dans le livre, on dit pas objet volant non identifié, mais on vous dit objet vibrant nuitamment inepte. Au-delà du clin d'œil. Non, nuitamment inepte.
C'est parce que c'était lié à la façon dont les premières observations d'OVNI sont apparues. Et là, une fois de plus, c'est lié au cinéma, c'est lié à des premiers films là-dessus, c'est aussi lié à des peurs comme après la guerre froide, etc. Moi, l'avantage, c'est j'ai pas à me prononcer en tant qu'écrivain romancier sur est-ce que je crois à l'au-delà, est-ce que je crois aux soucoupes volantes.
Puisque... Mais c'est la question qu'on se pose du début à la fin du livre. Est-ce qu'il faut croire à l'au-delà? Est-ce qu'il faut croire à cette frontière? Est-ce que cette frontière, elle a une substance claire, justement, ou est-ce qu'au contraire, on est dans le flou en permanence?
Ben moi, ce qui m'intéresse, c'est la notion d'indécidable, parce que je trouve que voilà, dans l'ordre de, en littérature, dans la fiction, l'indécidable est très intéressant. Ça empêche le lecteur d'être rabattu sur une espèce d'exégèse, une seule explication, et donc il est tout le temps comme ça, dans un flottement, en train de naviguer, et ça permet, je pense, à l'écriture et à la narration d'être peut-être plus vivante quand on ne donne pas une solution ou on rabat pas les choses comme ça, qu'on les laisse se déplier et devenir un peu organique, un peu mystérieuse.
Voilà, et c'est absolument délicieux. Hein. Claro, Substance est publié, je rappelle, aux éditions Actes Sud, un livre que trois de nos auditeurs vont pouvoir gagner en répondant à la question du jour sur la page Facebook de l'émission. Répondez uniquement par message privé. La question est donc la suivante. Comment s'appelle le personnage vedette du programme télévisé américain que regardent la tante et ses amis dans le livre? On en a parlé tout à l'heure, je dis bien le nom du personnage. C'est cela la réponse que j'attends de vous sur la page Facebook de l'émission par message privé. Et donc, que le meilleur gagne. Un mot de votre dernier livre, Bertrand Méheux, qui vient de sortir. Il s'appelle « La conversion de Guillaume Portail ». Il est sous-titré « Comment l'homme le plus riche du monde s'en est pris au capitalisme ». Ouais. Qu'avez-vous voulu raconter?
D'abord, Guillaume Portail, il faut traduire le nom en anglais, oui. Ça fait Bill Gates. Bon.
Ah,
il s'appelle
d'accord.
Guillaume Portail de Kervas-Doué.
Il est un peu breton sur les bords.
Je me suis approprié la figure de Bill Gates, que j'ai francisé et bretonisé. Et j'ai imaginé qu'il est à la suite d'une conversion de type religieuse, en partie aussi à la suite d'une séance de... Il vient à Paris, à l'Institut Métapsychique, pour avoir un éclaircissement par un voyant sur un rêve prémonitoire qui le hante depuis son enfance et qui semble indiquer qu'il périra dans des conditions dramatiques. Et ce jour-là, il est accroché effectivement par le voyant, mais qui ne lui donne pas vraiment de réponse, qui lui dit je vois que vous êtes une porte. Il donne pas son nom. Et puis il ajoute, non, plutôt un portail. Vous êtes un portail, mais je ne comprends pas sur quoi vous ouvrez.
Portail, on pense à Internet, voilà, hein, évidemment, aussi.
Ouvrez-vous sur un monde nouveau, sur le nouveau monde, sur l'autre monde. Et puis donc, Portail sort absolument bouleversé par cette séance. Et il a aussi une fille végane qui est une égérie de Notre-Dame-des-Landes, etc., qui le titille. Et finalement, à la suite de tout ça, il craque et il décide de rapatrier toute sa fortune en France et de faire un coup d'État écologique, en faisant croire qu'il vient pour racheter Notre-Dame-des-Landes afin de faire un aéroport plus grand. Alors ensuite, c'est une gigantesque... Bon. Et donc, ce qu'il veut promouvoir, c'est l'agriculture biologique à grande échelle. Il rachète toutes les dettes des agriculteurs français qui veulent signer avec lui un contrat pour faire de l'agriculture biologique. Et en un après-midi, d'un clic sur Internet, il abolit toutes les dettes. Il peut le faire, Bill Gates. Il a les moyens de faire ça.
Ben,
j'ai fait
lancé,
les calculs
alors.
Avec ma... Et donc, ça provoque un bouleversement de la société. Et à la fin, ça se termine dramatiquement, mais d'une façon... qui laisse espérer quelque chose.
Eh bien, je laisse le lecteur le découvrir. Merci beaucoup également à vous, Bertrand. Mais dans un instant, le journal sur RFI. On se retrouve demain pour parler théâtre avec l'acteur Philippe Torreton pour La vie de Galilée de Bertolt Brecht, mise en scène par Claudia Stavisky, actuellement à l'affiche de la Scala de Paris. Dans un instant, l'info sur RFI. À demain, vous m'en direz des nouvelles.